Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Et ce matin, nous allons parler de Phil Guston et de Jeanneret. C'est quoi le prénom de Jeanneret ? Pierre Jeanneret, donc le collaborateur du Corbusier et de Chandigarh. Et donc en première partie, nous parlons de Phil Guston, qui est un peintre américain né en 1913 et mort en 1980, et qui a fréquenté, qui était ami avec Jackson Pollock, qui appartient donc à cette grande époque de la peinture, de ce qu'on appelait l'école de New York, une grande école de peinture abstraite, avec Harold Rosenberg, qui était aussi une de ses fréquentations, qui était le théoricien du groupe. Il y avait Willem de Kooning, Mark Rothko, un certain nombre de gens comme ça, et Guston est un d'entre eux. Il met par rapport à eux, enfin, oui et non, parce que Pollock, par exemple, meurt relativement jeune, mais il a son parcours à lui. Il commence en travaillant avec des fresquistes mexicains, ce qui se faisait beaucoup. Il est très, très politisé. Alors, on a aussi eu une émission ici sur le frère de chez le même éditeur. C'était dit, alors le livre dont on va parler s'appelle Que peindre sinon l'énigme, et c'est les propos prononcés lors de débats ou lors de conférences par Phil Guston qui sont dans ce livre. C'est un livre qui a été produit aux États-Unis et qui est traduit en France à l'Atelier Contemporain. Et à l'Atelier Contemporain, on a parlé de Charles Pollock, qui est le frère de Jackson Pollock, qui lui aussi était peintre et qui lui aussi a travaillé, par exemple, avec des fresquistes et qui lui aussi était très politisé pendant la Grande Dépression de 1929, pendant la Grande Crise et tout ça. Ensuite, ils sont tous abstraits, donc là, vous voyez bien, il n'y a qu'à penser à Rothko, tout de suite, vous voyez à peu près ce que c'est, ou Pollock, ou de Kooning. Et Guston peint comme eux dans un registre pourpre, mauve, rose, gris, avec des couleurs à lui. Et puis à un moment donné, il fait une mutation extrêmement violente qui va provoquer des réactions assez importantes. Il adopte un style très proche de celui du dessinateur Robert Crumb, mais d'une façon totalement épurée. Je ne sais pas, pour ceux d'entre vous qui voient Robert Crumb, vous n'avez pas de peine à imaginer, c'est de la bande dessinée, c'est un trait très caractéristique. Et une des peintures, un espèce de logo de Guston, c'est le Ku Klux Klan. Si vous voyez comment ils sont avec leur robe, et puis il y avait ça dans un film qui était très bien, qui racontait l'histoire de la musique populaire américaine, du fameux cinéaste qui fait des films drôles
américains. Buster Keaton ?
Non, pas du tout. Tu sais, beaucoup plus récent, là, c'est avec le bowling, là. Non plus, non. Et la génération suivante, beaucoup plus grotesque et drôle. Enfin, bref. Donc c'est Phil Guston, et j'ai interviewé le traducteur, et c'est la personne qui a fait la préface, qui s'appelle Eric Zucher. Eric Zucher vit à Lyon, donc je l'ai interviewé en Zoom. Je peux dire encore que Phil Guston fréquentait John Cage et Morton Feldman, donc c'est vraiment cette génération. À la fin, il est assez distant avec Cage, parce qu'il dit Cage illustre ses théories avec sa musique. Il fait une musique illustrative, mais il reste très ami avec Morton Feldman, qui est sans doute son meilleur ami. Et il fréquente aussi beaucoup, il habite à Woodstock, là, donc, où il y avait eu le fameux festival, à 100 km de New York. Et dans ce bled habite aussi Phil Roth, l'auteur de Portnoy et son complexe, l'écrivain américain peut-être le plus célèbre de sa génération, à mon avis largement surfait, mais enfin très très célèbre. Et ils sont amis aussi, donc ça vous donne un cadre pour situer Guston. Et maintenant, nous allons écouter l'interview de Monsieur Eric Zucher.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour, nous sommes sur Aligre FM. Je
Bravo,
suis
Yvan, très bien.
avec Eric Zurcher et nous allons vous parler d'un livre qui vient de paraître à l'Atelier Contemporain, Que peindre sinon l'énigme, qui est un livre qui parle de Philippe Guston. Et donc, j'ai deux questions à poser à Eric Zurcher. C'est qui est Philippe Guston et quel est le contenu de ce livre? À vous.
Bien, d'abord, je m'appelle pas Eric Zurcher, mais Eric Sucher.
Suchère, excusez-moi.
Alors, Zurcher est un galeriste parisien, je ne le suis pas. Voilà.
Oui.
Donc, Philip Guston, peintre américain, qui a traversé une grande partie du XXe siècle, qui a commencé tout d'abord avec l'expérience des muralistes mexicains, donc dans des peintures qui étaient des peintures sociales, extrêmement engagées à gauche, dans une peinture figurative qui pouvait sembler assez provincialiste de la part, en tout cas pour des Français qui avaient l'impression, la sensation d'avoir les clés de la modernité, toute la modernité, rien que la modernité. Et puis il va découvrir, puisqu'il vit d'abord sur la côte ouest, il va découvrir assez tardivement la peinture moderne européenne qui va le marquer, Picasso. Bien sûr, mais pas seulement. Beckmann, un grand peintre important pour lui, et d'autres peintres, disons plutôt figuratifs. Voilà. Et à peu près pendant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ce condisciple de Jackson Pollock, ils sont tous les deux amis, ils sont à la même école, vont travailler sur cette peinture sociale et politique. Et à partir de la fin des années 40, tout de suite après la guerre, début des années 40, il va venir à New York, rencontrer cette scène absolument explosive qui est celle de l'expressionnisme abstrait, terme qu'il réfute absolument, ou de l'école de New York, en compagnie donc de peintres tels que Jackson Pollock, encore lui, Wilhelm de Kooning, Barnett Newman, Marc Roscoe, et puis d'autres qui sont un peu moins connus en France, comme William Basiot. Et là, il va infléchir sa peinture, faire disparaître les éléments de la figuration dans une peinture qui semble expressionniste, mais qui ne l'est pas tellement, finalement, dans laquelle il va tenter de peindre en essayant de ne pas savoir à quel résultat il doit arriver, de ne pas prévoir le résultat de la peinture. Et ces peintures vont à ce moment-là aller vers des rapports qui sont des rapports de couleurs assez doux, une sorte ce qu'on a appelé d'impressionnisme abstrait, qui fait que certains des commentateurs vont le rapprocher du dernier Monet, et notamment des peintures des Nymphéas. Chose qui l'intéresse pas beaucoup, Monet ne fait pas partie des références que Guston a. Mais bon, il faut toujours qu'on rabatte aux aînés, aux précédents. Donc c'est ce qu'on va faire pour Guston. Et puis il va subir une crise qui est une crise assez grave. Il a l'impression de se répéter. Il a l'impression aussi que les interdits modernes, l'interdiction de la profondeur, l'interdiction de la figuration, tout ce qui a façonné cette peinture qu'on va appeler le modernisme après donc la Seconde Guerre mondiale, est un peu absurde et que cette absurdité doit être dépassée. Et cette crise va l'amener à repenser la peinture et à lui dire, mais pourquoi ne pas simplement dessiner ce qui est autour de moi? Pourquoi ne pas simplement dessiner eh bien, le vent qui secoue les feuilles de l'arbre juste en face de l'atelier? Pourquoi ne pas dessiner la paire de chaussures qui est là, la boîte de peinture? Et c'est une période qui va durer un petit peu longtemps, un petit peu dans le secret, et qui va l'amener à des images. L'image a toujours été sa préoccupation, finalement, peut-être, et a réexaminé un certain nombre de ses peintures anciennes. Et il va inventer à ce moment-là des fictions qui sont des fictions autour de figures, qui sont la figure du peintre, des figures un peu plus controversées, qui sont celles du Ku Klux Klan, jusqu'à donc une exposition absolument terrible pendant laquelle il révèle ses peintures. Et là, l'anathème lui est jeté, tous ses amis expressionniste abstrait se détourne de lui, son grand ami, le compositeur Morton Feldman, ne lui adresse plus la parole, il se fait éreinter par la presse, et seul William de Kooning lui dit, maintenant tu as réussi à être libre, ce qui est quand même la tâche essentielle pour un artiste. Bon, mais il va continuer cette chose-là pendant une période qui est une période assez longue, une quinzaine d'années. pendant lesquels il va être ostracisé, peut vendre, être mis à l'index, sinon par un de ses galeristes qui le soutient quand même, mais qui a peu de résultats. Et puis, la situation de l'art va changer. À la fin des années 70, ça va être ce qu'on va appeler l'effondrement de la modernité au profit de la postmodernité, au postmodernisme. On va commencer à reconsidérer la peinture, cette peinture figurative, et donc plus simplement les peintures dites impressionnistes abstraites, et à les mettre en valeur. Bon, c'est aussi le moment où on regarde, où on re-regarde l'œuvre tardive de Picasso, hein, qui là aussi avait été mise de côté, hein, les peintures des années 60 et 70. C'est la période dans laquelle on voit émerger un certain nombre de mouvements, la transavant-garde italienne, la figuration libre en France, dans lequel moment, tout ce qui est de l'ordre de l'image, la possibilité d'une narration, de citation du passé, vont revenir sur la scène de l'art. Et Guston va à ce moment-là apparaître comme un peu comme Baslitz d'ailleurs aussi, comme quelqu'un qui a su résister à ce mouvement moderne et à ses interdits et offrir une liberté. Bon, malheureusement, il va mourir peu de temps après, puisqu'il meurt en tout début 80, et il ne connaîtra pas la gloire qu'il n'attendait d'ailleurs sûrement pas. Donc moi, ce qui m'intéressait chez Gleason, c'est une sorte de réduction, finalement, de l'histoire de la modernité, de passage, mais aussi de voir comment se font finalement les contradictions possibles dans la lecture de l'histoire de l'art. Hein. C'est-à-dire comment faire coexister, je ne sais pas moi, Warren Futures de Kossuth avec Pablo Picasso, Giorgio Morandi avec Lucio Fontana, Beckmann avec Juan Miró, Juan Miró avec Malevich. Bon. Et Guston synthétise tout ça, sans aller jusqu'à l'art conceptuel, mais effectivement, c'est cette question du doute, qu'est-ce que permet la modernité? Comment l'envisager? Est-ce que l'image est de l'ordre de la régression? Est-ce que l'image peut porter du politique? Est-ce qu'elle peut porter de l'éthique? Est-ce que la disparition de l'image constituerait un champ d'émancipation possible du langage pictural qui l'amènera à son essence? Et en même temps, est-ce qu'on peut continuer à porter ça malgré tout de retour dans l'image? C'est-à-dire comment finalement l'abstraction vient porter la figuration et la figuration vient porter l'abstraction. Ou plutôt comment la frontière s'effrite entre les deux, ni tout à fait abstrait, ni tout à fait figuratif, et comment on passe de préoccupations dites picturales à des préoccupations iconographiques. Comment l'image peut faire sens tout en portant la peinture. Et sans doute que Guston s'appuie pour cela beaucoup plus sur l'art dit ancien plutôt que sur la modernité, puisque les peintres auxquels il fait référence sont principalement Giotto, Masaccio, Piero della Francesca, Tiepolo, c'est-à-dire aussi tout ce qui a été à un moment donné balayé, mis de côté dans la table rase voulue par cette modernité, en tout cas dans sa phase dite historique. Donc, il est à la fois celui qui prolonge ses grands maîtres et en même temps qui veut intégrer aussi ou poursuivre ses grands maîtres à l'intérieur, hein, de l'histoire de la peinture moderne, en acceptant, et c'est ça qui m'intéresse peut-être le plus, toutes les contradictions qui sont celles de sa personnalité et de sa peinture. Alors, le livre lui-même est un ensemble donc d'entretiens, de conférences, de textes écrits par Philip Guston, qui témoigne de ce passage à partir au cours de 1944 à 1980, avec des choses qui sont très belles dedans, qui sont principalement des discussions qu'il a dans des universités, dans des écoles d'art. Et c'est ce qu'on a, c'est ce qui est le plus important en fait, dans la masse des entretiens. Et on assiste très très joliment à Philip Guston en train de discuter avec des jeunes artistes, avec des artistes en formation. Lui-même qui est déjà un tout petit peu plus âgé, hein, il a déjà une quarantaine d'années quand il commence ses conférences. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de quelqu'un qui n'est pas en train de donner une leçon. de leur dire voilà ce qu'il faut faire, voilà de ce qu'il faut pas faire, mais qui est en train véritablement de partager ses doutes, ses questionnements, sur tout ce que je viens de nommer tout à l'heure, et dans un langage qui est un langage extrêmement simple, dans un style oral, dont je reparlerai tout à l'heure, absolument merveilleux, avec une évidence qui est une évidence, d'une approche qui est une approche profonde et réfléchie de la peinture, mais qui n'est pas une approche pseudo-théorique. Même quand il discute d'ailleurs avec Harold Rosenberg, le grand théoricien de l'expressionnisme abstrait, c'est une discussion tout à fait à bâton rompu, hein, avec des engueulades, avec des contradictions, avec des remises en cause, avec des hésitations, avec tout ce qui fait la richesse de cette parole qui accompagne cette peinture. Alors je dois aussi énormément pour cet ouvrage que j'ai traduit à la retranscription de Clark Coolidge. Alors, Clark Coolidge, c'est un grand poète américain qui n'a pas tenté de réécrire ses conférences, entretiens, mais qui a fait en sorte d'essayer de retrouver cette oralité assez directe, ses reprises, ses hésitations, ses balbutiements, ses suspens aussi. Et on entend presque la voix de Houston, hein, quand on lit le texte américain, états-unien, on entend presque la voix de Houston qui est en train de nous parler, de s'adresser à nous. Bon. Donc le but de la traduction était d'essayer de s'approcher au plus près de cette voix et d'approcher de toutes ces questions.
Il y a une dimension à la Beckett, comme ça, d'interrogation sur la chose elle-même. Et par exemple, je viens de finir le livre et il parle de John Cage comme étant quelqu'un qui illustre ses théories dans ses pratiques, tandis que lui incarne le questionnement lui-même.
Le
Pour moi,
questionnement.
ce qui est remarquable dans ce livre, c'est le côté kabbale, c'est le côté kabbaliste, c'est l'interrogation sur l'interrogation. Et tout le plaisir, effectivement, de flotter dans cet éther, de jamais avoir la capacité à saisir l'objet. Il a un véritable goût à la discussion, à la remise en question, au questionnement pour le questionnement. Et il marche sur un fil, voilà, c'est un funambule. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, le titre du livre est éloquent. Il a été choisi par l'éditeur. Que peindre sinon l'énigme? Voilà. Parmi ses auteurs de prédilection, il y a Beckett, il y a Kafka, il y a Ross aussi. Voilà. Donc, il faut rappeler, puisque vous avez prononcé le terme de kabbale, que Philip Guston est d'origine juive, et même s'il n'est pas forcément pratiquant, et s'il n'y a pas de relation directe entre le judaïsme et sa peinture, c'est quand même une culture qui le marque profondément. Et cette question de l'énigme, c'est d'abord la question de l'énigme de l'image. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est là et qui en même temps n'est pas là. Cette chose qui est là, dans quel plan apparaît-elle? Dans quelle surface? Quelle est sa profondeur? Ça fait illusion sans toutefois faire illusion. Lui-même, d'ailleurs, quand il peint ces images, ne sait jamais trop ce qu'il est en train de peindre. Il y a une déclaration qui est réitérée à plusieurs reprises dans laquelle il dit qu'il aime bien, au petit matin, quand il a peint toute la nuit et qu'il a quitté l'atelier, savoir qu'il a laissé à l'intérieur de l'atelier des êtres, pas des peintures, mais des êtres, et de penser que ces êtres sont autonomes. Et il le dit d'une autre manière, si j'ai eu l'impression au petit matin d'être content d'avoir fait une peinture, c'est que c'est raté. Hein. Donc, essayer de faire en sorte que ça existe, que ça prenne corps, que ça prenne conscience, un peu comme une sorte de golem qui existerait. Et les histoires qu'il raconte avec les fameux membres du Ku Klux Klan, il les imagine en train de conduire des voitures, de manger des pizzas, certains même en train de faire de la peinture. Sont à la fois extrêmement directs, on a l'impression presque d'avoir quelque chose qui est le lore d'une bande dessinée, et en même temps quelque chose qui est très mystérieux sur le sens, ce qui d'ailleurs va finir par provoquer des contresens sur la dimension raciste, politiquement réactionnaire que pourra avoir ces peintures et qui vont amener notamment au report de la grosse rétrospective qui devait avoir lieu il y a 2 ans à Washington. Mais pour lui, la question qui est la question essentielle, et là aussi il fait référence à de Quéricault, hein, c'est c'est réussir à représenter cette énigme de l'image, cette énigme de la représentation, ou même cette énigme de la présence. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est là? Qu'est-ce qui fait qu'elle existe en face de soi? Et pourquoi la peindre? Dit Philippe Guston. Il y a une autre déclaration qu'il dit de mémoire. Je pourrais très bien me tenir devant ma fenêtre et me contenter de regarder, mais j'ai besoin d'incarner ce qui se trouve en face de moi, et l'incarner avec les moyens qui sont après tous les plus rudimentaires possibles, un pinceau, de la couleur, et d'essayer de rendre compte de cette présence.
Et oui, il garde une acidité et un goût du questionnement jusqu'à la fin de ses jours. Et il dénonce ses camarades de l'école de New York là, comme étant devenus des gens qui font une espèce d'art commercial. Et ça rappelle certains pamphlets, certains qui font en fait de la peinture pour les banquiers, de la peinture décorative. Il a comme particularité de rester une conscience, en fait, tout jusqu'à la fin. Et, par exemple, il n'a plus de marchands les 10 dernières années. Il retourne enseigner. Enfin, il y a quelque chose de très particulier, vraiment et aussi un goût à l'art populaire. En fait, il a une dimension pop par rapport au maniérisme de l'abstraction. Par rapport on peut très bien voir Rothko en poseur, en fait, ça ne pose aucune difficulté. Et lui, il fait souvent référence à des dessins sur un camion, sur une façade, etc. Donc il a quelque chose d'extrêmement vivant, une flamme qui maintient jusqu'au bout.
Alors moi je vous suivrai, je suis pas sûr que Philippe Guston nous suivrait. Bon, même s'il y a quelques références liées à la culture populaire, notamment aux bandes dessinées du début du XXe siècle, je
Oui.
pense à Crazy Cat de Georges Herriman, par exemple, hein, dont on retrouve certains signes graphiques, à d'autres, à Bud Fischer, autre auteur important. Il le dit dans un entretien qu'il déteste le fait qu'on puisse le rabattre à la culture populaire. Bon, moi j'y crois pas.
Mais
C'est vrai qu'il est compromis.
toutes les solutions qu'il enferme, il se révolte. Dès qu'on l'enferme dans une étiquette, il se révolte, sa lutte, c'est d'échapper à l'enfermement, y compris dans son rapport avec lui-même, en fait. Il a une espèce de vision de chaman, de sorcier de sa peinture. C'est une espèce de pratique mystico-magique. Il y a quelque chose qui n'existe pas, qui va surgir. Et ce qui est beau, c'est cette espèce de questionnement adolescent, il le maintient jusqu'à la fin de ses jours. Enfin, pour moi, c'était l'essentiel dans ma lecture du livre. Il renonce jamais à chercher cette chose qui va surgir, dont il ne sait pas ce qu'il est. Et ce qui compte dans le questionnement, c'est le questionnement.
Entièrement, entièrement. Après, il est en prise avec son époque, bien sûr. Hein. Donc, il voit forcément des choses. Alors, des choses qui peuvent venir aussi de l'actualité. Il y a une phrase absolument terrible, hein, que dit Guston pendant la guerre du Vietnam. Il dit, mais qu'est-ce que je fais là dans mon atelier à utiliser, je cite de mémoire, hein, du orange, du rouge et du vert, hein, pendant la guerre du Vietnam. Voilà. Donc, parfois, il regarde la télé, puis parfois, ce sont des images de Nixon qui arrivent. Parfois, ce sont des images d'émeutes raciales. Tout ça finit par rentrer, mais par rentrer par des biais détournés, sinon. Pardon. Dans une série de dessins représentant directement Nixon, mais je pense qu'il a dû voir, évidemment, le rapport se fait des dessins de George Crumb, dessinateur de bande dessinée. Il y a un rapport formel qui, les gros souliers avec clouté, la déformation des figures. Bon, mais tout ça vient bien se mélanger avec toutes les références que je donnais tout à l'heure, et puis effectivement avec cette question de faire une image et en même temps d'abstractiser cette image, de la rendre énigmatique, de la décontextualiser, de la ramener à un autre plan. Voilà, c'est un C'est une machine finalement à, je dirais pas que c'est une machine, c'est une mauvaise formule, ça fait penser à Warhol. C'est un merveilleux moyen de recyclage de ses propres peintures, des muralistes mexicains, de Picasso, de Piero della Francesca, de la bande dessinée du XXe siècle, de l'expressionnisme de l'école de New York. Voilà, et tout ça vient ensemble, hein, surgit, se gonfle, parfois devient totalement délirante. Je pense aux peintures qu'il fait à Rome dans les années 70. Parfois, et dans l'extrême nudité, simplicité, je pense à ces dessins de traits extrêmement simples qu'il fait pendant sa crise qu'on appelait abstraite. Voilà. Et de passer sans arrêt de l'un à l'autre, de l'extrême simplicité à quelque chose qui serait presque de l'ordre du baroque, de la peinture à l'image et de l'image à la peinture sans cesse.
Bon, ben merci, on a fait 20 minutes.
Ça
Merci
vous
bien
parle.
à vous. Jusque-là, Zoom me coupait au bout de 20 minutes, mais là, il n'a pas l'air de me couper. Je ne sais pas pourquoi. On arrête là ou vous voulez dire encore quelque chose?
Qu'est-ce que je peux. Je remercie la Fondation Gusten,
Ben, bien sûr,
Clark Coolidge,
l'éditeur est excellent éditeur.
l'éditeur. Nous avoir permis de faire connaître un peu plus au public français l'œuvre de Guston et les écrits de Guston, en tout cas, c'est-à-dire ce qui sous-tend ses œuvres. Et malheureusement, l'exposition ne viendra pas en France et il faudra se déplacer à Londres pour pouvoir la voir.
Oui, on a vu très peu de Guston en France, en fait.
Il y a eu deux expositions organisées par Didier Ottinger, une au Sable d'Olonne. En 2000, de mémoire, et puis une autre au Centre Georges Pompidou. Voilà, c'est tout. Toujours organisé par Didier Ottinger. Bizarrement, ça résiste. Mais en tout cas, quand je parle aux peintres, oui, il y a un intérêt pour l'œuvre de Guston.
Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans avec un Anglais qui s'appelait Barry Hastings, qui est malheureusement mort, et qui avait deux idoles, c'était Max Beckmann et Phil Guston. Et c'est comme ça que j'ai découvert Guston. Et quand il est mort, je me suis aperçu que c'était mon Barry Hastings, que c'était un peintre maudit par excellence. Il y avait un texte sur lui, c'est moi qui l'avais fait. Et donc, c'était aussi une influence. Et donc, il récriminait tout le temps. Contre l'abstraction américaine et puis les critiques d'art américain, tout ça. Donc il était dans ce, il faisait de la peinture figurative de très très bon, de très bonne qualité et il faisait référence à Phil Guston, c'était une espèce de moine gustonien.
Oui, il y a d'autres peintres hein, qui font, je pense, à Pierre Moignan, qui fait référence à Philip Guston aussi.
Ouais.
Bon.
Bon, bah écoutez, merci
Merci, je
et
t'en prie.
à la prochaine.
À
Je
bientôt.
ferme, j'espère que j'aurai l'enregistrement. Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et donc, nous étions avec Eric Zucher. Il faut que je fasse attention de ne pas crier, même chez moi, devant Zoom, maintenant je crie. Je deviens gaga. Et on a parlé de que peindre, sinon l'énigme publiée à l'Atelier Contemporain, qui sont les propos que Phil Guston a tenus pendant ses conférences ou pendant des débats aux États-Unis, principalement dans des universités de la côte Est, les écoles d'art étant dans les universités, faisant partie des structures universitaires. Maintenant, avant d'aller à Chandigarh, nous allons écouter un petit morceau de musique. Nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Musique.
Like an ablution. Oui, bonjour, je m'appelle Loïc Konanski et Yves m'a invité pour que j'invite mon ami Christian Barani à nous parler de son nouveau film. Tourné où ça, Christian ?
Il est tourné dans le Punjab, dans la ville de Chandigarh.
Voilà. Et donc, en fait, je dois préciser quand même que Christian Barani pratique un cinéma vraiment d'immersion. Et c'est un cinéma de marcheur. Il marche, caméra à l'épaule. Et il a déjà une technique extraordinaire, enfin instinctive, j'imagine. Mais il prend les choses comme elles viennent, il capte ce qui arrive, il reçoit, c'est tout ce qu'il fait, et il marche, et il arrive à faire durer le plan des minutes et des minutes et des minutes. C'est très, très, c'est très impressionnant, et il nous révèle une humanité en temps réel, quoi, quelque part. Enfin, pas le vrai temps, c'est pas monté, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et donc là, il est allé à Chandigarh, qui est une ville un peu spéciale, pour ce qui concerne un peu dans l'histoire de l'architecture et puis même l'histoire de l'urbanisme, une ville en Inde. Et faudrait peut-être que tu pourrais envoyer le premier sonore, s'il te plaît.
C'est un homme, il a 55 ans, il est architecte, il est en France, c'est au XXe siècle. Il y a la guerre en Indochine, il y a la guerre en Corée, il prend l'avion, il part construire. Il part construire une ville. Une ville entière. Ailleurs, très loin, c'est-à-dire loin de nos millions de morts, d'Auschwitz, d'Hiroshima, si proche. Il part au bout du monde, au bout du temps. Il doit construire une ville, une capitale de A à Z, là-bas. C'est en 1951, c'est en février, c'est le mardi 20 février 1951. Il part pour un ailleurs absolu.
Question, cet homme, c'était qui ? Il part filmer qui ?
En fait, cet homme, c'est Pierre Jeanneret. Mmh. C'est le cousin de Le Corbusier. Pierre Jeanneret fait ses études, il est suisse, il fait ses études aux Beaux-Arts de Genève. Il obtient le Grand Prix de la sculpture. Et il fonde avec Le Corbusier l'atelier de Sèvres. Donc un atelier d'architecture à Paris. Et ils vont travailler ensemble de très, très nombreuses années. Pierre Jeanneret est considéré comme un peu l'assistant de Le Corbusier, parce que Le Corbusier avait une intelligence, mais en même temps une hégémonie sur les personnes avec qui il travaillait, qui était assez grande. Et voilà, donc Pierre Jeanneret est invité par Le Corbusier à aller travailler à Chandigarh.
Et c'est lui qui dirigeait les travaux, plus ou moins ?
Alors, c'est Chandigarh, oui, parce que Chandigarh, c'est une ville... je vais juste faire un peu la construction historique de ce projet. C'est que Chandigarh est une ville qui est demandée par Nehru à l'indépendance de l'Inde en 1947. Oui. Nehru décide de construire, il y a la partition entre musulmans et chrétiens et hindous. Le Pakistan est créé, le Pakistan étant un pays qui est dans le nord-ouest de l'Inde, et l'état du Punjab est divisé en deux. Et le Punjab se retrouve dans une situation géopolitique assez intenable et dangereuse, qui est d'un côté les tensions avec le Pakistan à l'ouest, et au nord il y a la Chine, l'Inde a également de grandes tensions politiques avec la Chine. Et donc Nehru décide de poser la marque et la puissance de l'Inde dans cet état du Punjab, et il décide de construire une ville moderne, avec une idée socialiste de la ville, et à côté un camp militaire. Donc au départ, Nehru demande à deux Américains de faire le plan d'urbanisme et de créer la ville. Et puis les deux Américains commencent à travailler avec Nehru, il n'y a pas beaucoup d'argent. L'un des deux, qui s'appelait Novicki, meurt dans un crash d'avion entre les États-Unis et l'Inde. Et donc l'autre architecte, qui s'appelait Meyer, décide d'arrêter. Et donc les Indiens partent à la recherche d'un nouvel architecte, vont voir Le Corbusier, qui dans un premier temps refuse parce qu'il a pas mal de travail. Et en même temps, il se dit « je ne vais pas pouvoir suivre en Inde la construction et l'évolution d'une ville ». Donc il refuse. Et les architectes indiens vont voir un couple d'architectes anglais, Maxwell Fry et Jane Drew, qui sont spécialistes de l'architecture tropicale. Et eux acceptent. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand Le Corbusier apprend que Jane Drew et Maxwell Fry accepte, il rappelle Nehru et il dit bah, finalement ça m'intéresse de construire Chandigarh et voilà, et je veux que Maxwell Fry et Jane Drew soient mes assistants. Et donc le projet débute comme ça. Et Le Corbusier a besoin évidemment de quelqu'un qui va suivre, à la fois dessiner et suivre les travaux, et il appelle son cousin Pierre Jeanneret pour qu'il puisse partir et suivre la construction, l'évolution de cette ville.
C'est ça. En fait, il représentait le patron, quoi.
Et au départ, il devait représenter un peu les idées du patron. Mais ça va très vite changer. Mmh. Le Corbusier et Jeanneret se rendent en 1950-51. Ils se rendent sur le terrain. Le Corbusier dessine le master plan. Le plan d'urbanisme, on va dire. Et puis, il rentre en France. Et c'est là que Pierre Jeanneret, avec Maxwell Fry, Jane Drew, et quelques architectes indiens, comme Jit Malhotra et N.S. Sharma, vont commencer à réfléchir et à définir véritablement, profondément, ce que doit être une ville moderne indienne.
Donc là, le film se structure comme ça. Il y a une voix off avec un très beau texte, très intelligent, écrit par Emmanuel Adeli,
oui.
Qui raconte cette histoire, mais d'une manière très créative, quoi. Enfin, c'est pas du tout de la prose linéaire. Et c'est très, très bien, très, très bien dit. Et donc là-dessus, il y a tes images. Alors, vous avez commencé par les images ou par le texte? Comment que ça se passe?
Ah, l'imbrication, oui, parce qu'on voulait, à la fois, il fallait construire une biographie, en fait, de Pierre Jeanneret, parce que personne n'a jamais travaillé sur Pierre Jeanneret. Les seuls documents que j'ai trouvés étaient un petit mémoire de Dan Coquill, qui était de 1985-86, qui était une étudiante. En fait, on n'avait rien. Et en plus, Pierre Jeanneret était quelqu'un de très discret. Et il n'a jamais voulu, l'ombre de Le Corbusier, en fait, lui valait bien. Et on avait très peu de documents, on avait quelques lettres, quelques échanges. Donc en fait, il fallait écrire une biographie, inventer une biographie au plus près, mais en même temps fictionnée, de cet homme. Et là, c'est Emmanuel Adeli qui a réussi à écrire ce très beau texte, en fait.
Et très, très efficace aussi, hein, très historique.
Oui, exactement, il est très historique et en même temps, il est très contemporain dans son écriture. C'est-à-dire qu'il y a une vraie recherche formelle. Et c'est pour ça que c'est pas une voix off. C'est pas une voix off qui raconte une histoire. C'est véritablement l'enjeu du film est aussi d'associer la littérature et le cinéma. Comment repenser la relation entre la littérature et le cinéma. Et donc, pour faire ça, en fait, on a commencé, on a travaillé pendant plusieurs années, évidemment, et on a commencé à expérimenter cette relation en faisant des performances où Emmanuel a commencé à écrire une biographie. Moi, je projetais des images de Chandigarh. Et au fur et à mesure de ces performances, en fait, à la fois le texte et à la fois les images se sont affinées pour essayer de créer un seul objet, en fait, un objet cinématographique.
Et c'était écrit en parallèle? Le texte était écrit avant ou...
Ben, c'était des allers-retours sans arrêt. Et justement, l'expérience de cette lecture-projection, en fait, nous faisait chaque fois changer en permanence à la fois le texte, à la fois le rapport entre texte et image. Et donc, ça a été... maintenant, on parle de transversalité ou de ça a été un travail qui s'est échelonné sur plusieurs années, en fait. Et je travaille depuis près de 10 ans avec Emmanuel Adli sur certains de mes films. Et donc, la relation était forte et précise. Chacun, moi, je connais très, très bien sa littérature. Lui, il connaît très, très bien... ma manière de filmer et mes films. Et donc, on a travaillé cette imbrication, en fait.
Et donc, là, je connais un peu ton travail. Christian se balade partout dans le monde, je l'ai déjà dit, mais moi, ça m'étonne toujours. Et on a l'impression qu'il est parachuté quelque part. Il ne parle pas, il se balade avec sa caméra. Il sait très, très bien l'actionner, faire oublier sa présence. Enfin, c'est de la caméra subjective, mais c'est très proprement fait, quoi. C'est admirable comme boulot, techniquement. Et aussi, dans le sens, c'est que l'humanité se révèle toujours partout. Et il a fait ça dans tous les endroits du monde. Et c'est souvent des endroits déshérités, un peu problématiques. Et là, ça changeait de ton travail habituel. C'est que c'était un endroit tout à fait institutionnel, quoi.
Oui, parce que la ville de Chandigarh est un peu un exemple particulier en Inde. C'est une ville où on a... c'est une ville forêt, déjà. Donc en Inde, c'est très très rare d'avoir ce type d'urbanisme. Mais en fait, tu parlais de ma manière de travailler. C'est vrai que je pratique ce qu'on appelle la dérive, c'est-à-dire que je marche... je fais à peu près 15 à 20 km par jour à pied, seul avec ma caméra ou par moment avec un ami qui vient faire le son. Et en fait, c'est toujours un peu étrange, mais d'abord, je voulais dire qu'avant de pouvoir faire un film, je travaille beaucoup sur les cultures dans lesquelles je vais m'immerger. C'est-à-dire que là, sur la ville de Chandigarh, j'ai travaillé pendant 10 ans avec les spécialistes de la ville français, qui étaient Enrico Chapelle, Thierry Mandoul et Rémi Papillot, qui m'ont instruit de leur savoir, parce qu'eux ont travaillé depuis 20 ans.
Et donc ça, c'est restitué dans le texte.
C'est restitué dans le texte.
Et donc ça tu as pensé à quand tu as fait la prise de vue, tu avais ces informations en tête
Bien sûr. J'ai à la fois les informations de la ville, mais j'ai aussi la culture indienne, parce que je vais depuis les années 80, en fait, en Inde et au Népal. Donc en fait, c'est ça qui est très étrange, c'est que je travaille beaucoup en amont, mais quand j'arrive dans les lieux pour filmer, en fait, j'oublie tout.
Parce qu'il y a des lieux où tu déboules, je pense, t'avais fait aucun repérage, enfin, il n'y a pas vraiment de documentation, on sent que t'es parachuté et que t'arrives et que tu prends ce qu'il y a et tu t'adaptes même physiquement à l'endroit que tu ne connais pas, tandis que là, ce n'était pas le cas.
Oui, exactement. Mais j'ai essayé de retrouver ça, en fait. J'ai essayé de retrouver et d'oublier. En fait, c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'on filme toujours ce qu'on ne cherche pas, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est un état. C'est un état qui, pour moi, est déclenché par le fait que je marche. Parce que...
Oui, vas-y.
Non. La marche, pour moi, ce n'est pas la promenade. C'est vraiment la marche comme un acte physique. Ça me met dans un état de conscience différée, ce qu'on appelle. Quelque chose qui me fait un peu décoller du réel. Et qui me permet en fait d'arriver d'être extrêmement attentif aux situations qui sont face à moi, être dans un état un peu de transe, en fait, une sorte de transe, qui fait que j'arrive sur les lieux avec un état d'esprit, un rapport au corps, à l'espace, qui est assez particulier et qui me permet en fait de rencontrer.
Parce que, exactement. C'est ça. Ouais. Et c'est, moi, je suis toujours... époustouflé par les images de Christian, où il arrive dans n'importe quel endroit, il se pose avec sa caméra et la personne l'accueille. Il la connaît pas, il l'a jamais vue, il la verra plus. Et la personne se laisse, enfin, participe, a fait comme si elle l'accueille. C'est vraiment de l'accueil. Et c'est assez... c'est époustouflant. Enfin, bon, je fus caméraman dans une ancienne vie et je vois la... c'est même pas la difficulté. Je vois le truc, c'est qu'il... Et ça décolle, quoi. Voilà, quoi. Et donc ça, moi, c'est un truc qui m'époustouflait. Et donc, ces gens que tu filmes, toi, comment tu les conçois, qu'est-ce que tu ressens quand tu filmes? Tu les regardes ou tu échanges autre chose?
Alors, moi, quand j'arrive sur une situation en fait, je travaille beaucoup avec l'inconscient. Le fait de marcher me fait, comme tu disais, décoller du réel et en même temps être complètement dans l'espace. C'est toujours cette contradiction qui est assez orientale comme conception du monde. Hein. Chez nous, la contradiction est toujours quelque chose de rejeté. Moi, je pense qu'il faut l'intérêt total parce qu'on est toujours dans ces relations de contradiction. À la fois, j'oublie complètement mon sujet et à la fois, je suis complètement dans mon sujet. À la fois, j'oublie l'espace parce que je suis dans un rapport où l'inconscient prend le dessus sur le conscient et en même temps je suis physiquement dans les lieux et cette association des deux fait que j'arrive dans un certain état et je vois une situation qui m'intéresse. Je ne sais pas pourquoi elle m'intéresse, je ne cherche pas à comprendre pourquoi elle m'intéresse, je ne cherche pas à essayer de déterminer un sujet. Je vois juste une situation, une lumière, un corps.
Tu pourrais donner des cours de prise de vue, toi, quand même. Hein.
Oui.
Non, c'est vrai. Hein. On va changer un peu de sujet. On va passer le son numéro 2.
Parce que ça fait redit. Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Mon cher Pierre, j'ai un certain droit de savoir où en sont les travaux du Capitole. Je suis sans nouvelles de ce que devient le secrétariat et la haute cour. Tu pourrais me donner des nouvelles. Je n'ai aucune nouvelle de toi sur l'état du Parlement. Je te parle très amicalement, mais fermement cette fois-ci. Je suis encore une fois inquiet et non sans motif. Le problème de Chandigarh est particulier. Il est une manifestation d'individualisme à outrance. Je suis un peu écœuré. Nous n'avons pas fait un événement urbanistique et architectural ayant de l'unité. J'ai créé le plan d'urbanisme avec les secteurs qui sont la clé de Chandigarh et de mon invention. Quant à l'intérieur des secteurs et à leur contiguïté réciproque, vous en avez fait une curieuse traduction à peu près illisible. L'urbanisme de Chandigarh est maintenant plein d'obscurité pour l'usager. Je ne lis pas d'unité à Chandigarh. À Chandigarh, je ne trouve pas d'acte témoignant une vraie amitié. Je te demande instamment de donner les ordres nécessaires. Tu as généralement fait obstacle à cette sorte de choses, mais c'est moi qui ai été appelé à Chandigarh pour faire la ville. C'est moi qui lui donne sa main ouverte. Je compte donc sur ton amitié pour ne pas faire d'obstacle. J'ai eu l'amicale sympathie de Nehru parce que je suis un garçon sérieux. Il ne faut pas être jaloux de moi. Il est erroné de mettre de la jalousie d'artiste entre nous deux. Si j'ai obtenu quelque chose en 50 années, c'est pour avoir beaucoup travaillé utilement et avec un certain esprit créatif qui m'est propre.
Et donc là, qu'est-ce qui se passait entre Jeanneret et Le Corbusier là?
La relation entre les deux hommes était régulièrement tendue. Parce que Le Corbusier envoyait des...
Ils étaient cousins tous les deux.
Ils étaient cousins. Ouais. Ils s'appréciaient et ils se détestaient en même temps. Enfin, c'est là aussi, il y avait une contradiction permanente. Et en fait, Le Corbusier essaye d'imposer ses idées depuis Paris. Et Pierre Jeanneret, lui, a bien compris qu'il fallait modifier les idées du Corbusier, notamment au niveau de la construction de l'habitat social, au niveau de l'intégration et la définition de ce qu'on appelle les secteurs, c'est-à-dire les quartiers, en fait. Le Corbusier voulait imposer son histoire du moduleur dans l'habitat. Et en fait, Pierre Jeanneret a bénéficié du manque de technologie de l'époque. C'est-à-dire que le Corbusier venait tous les 6 mois visiter Chandigarh. Et entre-temps, la correspondance était très rare, puisque le temps qu'un courrier arrivait, repartait, les coups de téléphone coûtaient très cher, donc on ne le faisait pas. Et Pierre Jeanneret profitait en fait de cette absence pour faire ce qu'il voulait en fait. Et quand Le Corbusier arrivait et qu'il voyait que Pierre Jeanneret n'avait pas écouté que Pierre Jeanneret n'avait pas écouté ses ordres, il y avait beaucoup de tensions.
Donc il s'est fait plaisir là, Jeanneret, quand même.
Ah, il s'est fait plaisir exactement, mais il s'est fait plaisir dans le sens où il a très bien compris la culture indienne. Et il s'est totalement intégré dans la culture indienne. Et c'est ça la réussite de cette ville.
Et toi, comment elle est vécue, cette ville, maintenant par...
Ah, maintenant, c'est devenu un peu la Suisse de l'Inde. C'est-à-dire que tout le monde veut habiter à Chandigarh. Parce que c'est une ville forêt. Ils ont planté 500 000 arbres. La température descend entre 4 et 5 degrés grâce aux arbres. L'urbanisme est incroyable. Chaque habitat, les habitats sociaux, à 3,50 m de hauteur sous plafond. Chaque maison, l'habitat n'est pas plus haut que de 2 étages. Chaque maison a un jardin devant, derrière. C'est vraiment une ville exemplaire. Et ce qui est intéressant, et une des raisons du film, c'est aussi de montrer à notre époque maintenant, où les architectes et les urbanistes se posent des questions d'écologie, et du rapport entre le global et le local. En fait, eux, dans les années 50, ils ont totalement, avec les architectes indiens, ils ont totalement réussi cette problématique-là. C'est une ville écologique et qui a intégré la question du global, c'est-à-dire avec la modernité, et cette question du local qui est la culture indienne.
Je m'excuse de vous interrompre, mais on approche la fin de l'émission. Ton film va être projeté à Paris.
Oui.
Est-ce que tu veux annoncer le lieu et l'heure et l'endroit ?
Oui, le film va être projeté à la Cité de l'architecture et du patrimoine de Paris, au Trocadéro, le samedi 14 octobre à 16h.
Et donc je vous remettrai ça sur la page podcast. Et donc oui, vas-y, pose une dernière question, peut-être, ou dis quelque chose.
Non,
mais on peut arrêter. Hein.
Attends.
Mais c'est la fin, de toute façon, tu vois. Mais...
Enfin, c'est un film à voir. Enfin, tous les films de Christian sont à voir. Et moi, je viens là que pour parler des films de Christian. Voilà.
Merci, Louis.
Et celui-là va être projeté au Trocadéro. On vous voit là-bas. Adieu. C'était Aligre FM 93.1. La vie est un roman. Merci à Enrico Mastro Giovanni qui assurait la technique. Et je ne serai plus dans le son, il n'enregistre plus.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.